Bienvenue à tous. Nous tous qui sommes là, souvenons-nous que nous sommes tous frères, conviés au même festin, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux. À nous tous sont données la grâce et la paix du Seigneur. De même que dans l'aridité du désert, il y a la fraîcheur des oasis, où l'on boit l'eau de la source, de même, dans l'agitation de nos vies, comme un désert où Dieu n'est pas, il y a la célébration du culte, où ensemble, nous nous approchons de la source, Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané que vous trouvez dans le psautier français. Réjouis. Nous restons debout pour louer le Seigneur. Plus forte que nos tristesses, aujourd'hui éclate notre joie. Plus forte que nos ténèbres, aujourd'hui jaillit la lumière. Plus forte que nos guerres, aujourd'hui parle la paix. Plus forte que la nuit de la mort, aujourd'hui se lève le soleil de la vie. Car la folie de l'Évangile nous a rejoints. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Jésus, Dieu parmi nous, qui vient nous sauver. Amen. Et je vous invite à prendre dans le psautier, au psaume 98, les strophes 1, 3 et 4. vous pouvez vous asseoir. Nous écoutons maintenant ce que Dieu attend de nous. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim, préoccupe-toi du malheureux sans-abri et ne te détourne pas de ton prochain. Amen. Devant la volonté de Dieu, nous confessons maintenant nos manquements. Nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as créés pour que librement nous nous tenions debout devant toi, pour t'aimer et te servir, pour aimer et servir ceux qui sont à nos côtés. Nous t'adorons. Mais nous avons forgé toutes sortes de chaînes qui nous entravent nous-mêmes ou entravent les autres. À ton monde de liberté, l'être humain a opposé un monde d'oppression et d'esclavage. Pardonne-nous les liens que nous avons acceptés pour nous-mêmes et ceux dont nous avons lié d'autres. Et aide-nous à briser les chaînes injustes. Amen. Nous écoutons maintenant les paroles de pardon de la part du Seigneur. Dieu fait grâce à chacun de nous par Jésus, son Fils, notre Seigneur. Il allège notre cœur, nous décharge de nous-mêmes et renouvelle en nous l'esprit de son pardon. Que cette grâce qui nous est accordée soit répandue vers ceux qui nous entourent, afin qu'ils se sachent à leur tour pardonner. Que cette grâce soit pour nous comme un surcroît d'indulgence et d'amour, qu'elle produise la paix et la joie, la justice, l'équité, la clarté, la miséricorde, qu'elle produise les fruits que Dieu attend de nous. Amen. Je vous invite à vous lever. Pardonnés et libérés, nous confessons notre foi. L'homme n'est pas seul. Il vit dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer. Il est venu en Jésus, vrai homme, pour apporter la réconciliation et le renouveau, qui œuvre en nous par son esprit. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à être son Église, pour célébrer sa présence, pour aimer et servir autrui, pour rechercher la justice et résister au mal. Nous proclamons son royaume. Dans la vie, dans la mort, dans la vie malgré la mort, il est avec nous, nous ne sommes pas seuls, nous croyons en Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Alors nous lirons ce matin le texte du jour dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 18. Il s'agit, vous l'avez compris, des savants ou des mages ou des devins ou des rois, dira-t-on un jour, qui viennent voir Jésus à Bethléem. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de moins de 2 ans. Cette limite d'âge correspondait aux indications que les savants lui avaient données. Alors se réalisa ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une plainte à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils sont morts. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 107, les strophes 1, 2 et 3. 107, 1, 2 et 3. Tu es, Seigneur, plus étonnant que tout. Au-dessus de tout, tu es élevé. Tu es grand et ta place est auprès de Dieu. Tu es le Seigneur. Je ne connais pas ton visage, ni la musique de ta voix, ni la beauté de ton trône, mais je le sais, tu es comme nous. car longtemps au milieu de nous tu as marché. Je ne regarde pas le ciel, je te cherche sur la terre, dans les maisons et les rues, dans les champs et les usines, sur les chantiers et dans les écoles. Tu es élevé au-dessus de tout, mais je te trouverai dans les hommes, mes frères. Avec eux, je me lèverai, nous sortirons du mal qui nous tient enchaînés. Éclairés par tes paroles, nous avancerons sur le chemin comme on gravit une montagne et nous monterons jusqu'à ce jour où à tes côtés, nous serons élevés au-dessus de tout pour partager sans fin la joie de ta maison. L'histoire des rois mages est on ne peut plus populaire. Il semble que très tôt dans l'histoire de l'Église, ce récit, cette fiction, devrait-on dire, faisant surgir auprès du petit enfant emmailloté de Bethléem d'importants étrangers, a activé, catalysé l'imagination de tous et a contribué au caractère merveilleuse et féerique de la scène. Si l'évangile de Matthieu reste sobre dans sa narration, en prenant soin de l'enraciner dans des textes prophétiques anciens, c'est seulement au VIe siècle que les mages deviennent des rois, trois rois, Melchior, Balthazar et Gaspard, que nous connaissons par un évangile apocryphe dit Évangile arménien. Les réformateurs, quant à eux, reprenant des thèmes évoqués par les pères de l'Église, insisteront sur deux sens majeurs de ce texte. D'une part, la portée, pour ainsi dire, cosmique de la naissance de Jésus, l'étoile figurant l'obéissance de la création, de toute la création à son Seigneur, lorsque, désertant son orbite naturelle, elle va orienter sa course vers cette maison de Bethléem qui devient ainsi le lieu de ralliement de tout et de tous, le lieu de récapitulation de toute la création, car si Jésus rassemble le cosmos, il rassemble aussi tous les hommes. C'est ainsi que les mages apparaissent comme le premier signal fort de l'extension du salut à tous les peuples. La venue du Messie, roi des Juifs, n'est pas un événement pour la seule histoire du peuple d'Israël, mais pour toutes les histoires de tous les peuples, même les plus éloignés de cette terre promise. Ainsi se noue autour de ce texte une multiplicité de sens dans lesquels nos prédécesseurs ont trouvé de quoi alimenter les nécessités d'une prédication de l'Évangile toujours actualisée. C'est le propre d'un texte vivant parce que lu et relu par la succession des générations d'apporter dans un contexte toujours différent une lumière sur nos chemins. Et pour ma part, ce matin, c'est à deux lectures de ce texte que je voudrais m'employer. Tout d'abord, je parlerai d'un rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué entre le pouvoir politique et la souveraineté de Dieu, en m'intéressant à Hérode et son entourage. Ensuite, j'évoquerai le thème de la rencontre à propos des mages et de leurs itinéraires, rencontre des cultures entre elles, mais aussi avec ce qui les anime, ce qui donne du sens à chacune d'elles. Et puis pour terminer, portant notre attention sur Joseph et Marie, discrètement présents dans cette scène, j'essaierai de tirer quelques enseignements au sujet de la place que peut avoir l'Église aujourd'hui dans la transmission de l'Évangile à ceux qui viennent de loin. Je disais tout d'abord un rendez-vous manqué. Si l'on examine l'attitude d'Hérode, on se rend compte que son pouvoir est totalement soumis à la peur. Hérode, barricadé derrière les murailles de Jérusalem, enfermé dans tous les savoirs que lui dispense une cour de prêtres, de notables, d'experts, dirions-nous aujourd'hui, tous attachés à leurs prérogatives, honorés par une partie du peuple, soucieuse de glaner de ci de là quelques avantages en flattant le souverain, Hérode, centré sur lui-même, vit dans la peur. Car il sait bien que le pouvoir acquis à coup de manipulation, de trahison, est un pouvoir qui à tout moment peut se dérober sous ses pieds. Paralysé par la peur, il est déjà, pour ainsi dire, mort. Lorsqu'arrive à ses oreilles la question des mages, où est le roi des Juifs ? Lui qui a été nommé roi des Juifs par l'empereur de Rome comprend qu'il n'est plus personne, qu'il ne représente plus rien. Aussi est-il pris de troubles, d'agitation, de panique, et dans un élan désespéré de survie, pour conjurer ce qu'il croit être un mauvais sort, dans un sanglant exorcisme, il va décider de faire mettre à mort tous les concurrents potentiels à son pouvoir, que sont les petits garçons natifs de Bethléem. Hérode, bouclé dans sa peur, passe de l'agitation à la rage, de la rage à la colère. Au fur et à mesure que ceux qu'il convoque auprès de lui, les mages puis les scribes, lui révèlent le vide de son pouvoir, la vacuité de son existence, la fin prochaine inéluctable de son règne. Au fond, ce rendez-vous avec les mages aurait pu être salutaire pour Hérode, qui, bien que usurpateur en quelque sorte de son pouvoir, aurait pu se repentir, se réinscrire dans la grande tradition davidique de certains rois d'Israël, pour qui gouverner c'était avant tout servir. On pense ici à Salomon, servir un peuple au nom de la seule souveraineté du Dieu libérateur. Mais Hérode refuse ce rendez-vous et se plonge dans un enfermement mortel, mortel pour les enfants d'Israël, mortel pour lui-même, puisque nous disent ses biographes, il mourra peu de temps après cet épisode dans d'atroces douleurs. Alors, pour prolonger cette réflexion, je me pose une question. Au-delà de la figure d'Hérode, usurpateur notoire et reconnu, je me demande s'il n'affleure pas dans ce passage l'antique prudence de tous les prophètes depuis Samuel devant ce désir de roi qu'exprimait Israël pour faire comme tous les autres peuples voisins. Comme si tout pouvoir, quelle que soit sa nature, n'était pas tenté d'oublier ses limites. Comme si tout pouvoir, en se déclarant souverain, au lieu de se faire serviteur de tous, était menacé par l'autosuffisance, l'arrogance et le déni des réalités. En rappelant à Hérode que le roi des Juifs est ailleurs, les mages, à l'instar des prophètes, rappellent que si gouverner, ce n'est pas servir, servir jusqu'à donner sa vie, alors c'est se condamner à se la faire enlever, après l'avoir enlevée au propre et au figuré, à ceux dont on a la charge. C'est là me semble-t-il, l'enseignement majeur d'une actualité toujours renouvelée auquel nous devons être particulièrement attentifs aujourd'hui. Alors, en contrepoint de cette figure de mort et de mensonge, l'Évangile nous met en présence de personnages mystérieux dont on ne sait rien, ni leur nom, ni leur nombre. On sait simplement qu'ils viennent de loin pour adorer le vrai roi des Juifs et lui offrir des présents très symboliques d'ailleurs. L'or, un signe royal, l'encens, parfum lié à des célébrations religieuses, et la myrrhe dont on se servait pour embaumer les morts. Certains ont vu d'ailleurs dans ce dernier détail une allusion à la mort de Jésus, d'autant plus que l'appellation « roi des Juifs » que Matthieu met dans la bouche des mages est celle-là même que l'on trouvera inscrite sur la croix. Autant l'épisode d'Hérode nous relate une triste histoire de fin de règne, autant l'histoire des mages nous met en présence d'un chemin d'attente couronné d'une très grande joie, accomplie dans la plénitude d'une rencontre avec le roi des Juifs, le Messie. Au passage, rappelons-nous que l'évangile de Matthieu est rédigé pour des Juifs qui viennent d'être exclus de la synagogue parce qu'ils sont des disciples de ce Jésus de Nazareth, et qu'il est donc fondamental de leur rappeler que ce Jésus est bien le roi des Juifs, le Messie qui était attendu par Israël. Ceci dit, donc, les mages viennent à Jésus sans avoir entendu les prophètes, étrangers à l'attente messianique d'Israël. Ils cherchent le roi des Juifs, en qui visiblement, sinon pourquoi se seraient-ils déplacés, ils voient la clé, le sens ultime, la vérité de leur cheminement, depuis qu'une étoile, une lueur les guide à travers les nuits de l'histoire des hommes. Serait-ce donc que tout chemin d'homme, que toute histoire de toutes les nations ne trouve son sens, sa vérité, que dans la rencontre avec le Christ? Ici, en effet, il s'agit bien de cela. Des mages, des religieux, peut-être même des hommes ayant un certain pouvoir, respectés et reconnus dans leur patrie, se mettent en quête du véritable sens de l'existence humaine, se mettent à la recherche de celui dont ils pensent qu'il est la clé de voûte, la pierre angulaire de tout édifice, de toute aventure humaine. La civilisation dont ils proviennent n'est certainement pas sans ressources. Pourtant, ces pèlerins, ambassadeurs de peuples en marche, par-delà le confort bien établi d'une civilisation élaborée, cherchent pour eux et pour cet Orient nombreux un accomplissement, la résolution d'un manque. Comme si un creux était inscrit au cœur de toute histoire, comme si un vide était au centre de toute communauté organisée. Un manque est donc une attente sur laquelle peut se greffer une espérance. Alors au fond, ce que nous dit ce texte, c'est que c'est dans une rencontre que l'avenir s'éclaire. C'est dans un déplacement que se fécondent les cultures qui organisent l'histoire des peuples. Et en particulier, la rencontre avec le Christ est déterminante pour les mages, car ce petit roi des Juifs devient pour eux le révélateur de leur attente intime. Ils découvrent que la vérité qu'ils cherchent n'est pas figée dans un espace et dans un temps. Elle ne leur était pas donnée dans l'enfermement de leurs origines. Elle ne leur est pas plus donnée une fois pour toutes dans l'adoration de cette naissance. Elle leur est donnée dans les chemins qu'ils empruntent pour quitter leur certitude un peu trop établie, rencontrer cet enfant mystérieux dont ils soupçonnent qu'il est le pivot de tout avenir heureux, et surtout pour rentrer chez eux enfin par d'autres chemins, renouvelés, transfigurés par une rencontre salvatrice. La rencontre avec le Christ, le Messie, la présence incarnée de l'achèvement dans la paix et la justice de toutes histoires personnelles ou collectives, est ce moment favorable où toutes les potentialités des aventures humaines se déverrouillent pour des libérations inimaginables, des accomplissements imprévisibles, inattendus et comblés de bénédictions. La rencontre des mages avec le Messie, c'est aussi la rencontre féconde entre les cultures. Les mages, en effet, arrivent guidés par un astre, un peu comme des devins, dont on sait à quel point Israël est détesté, et ils repartent guidés par un songe, qui est le lieu par excellence où le Dieu d'Israël s'exprime. Les mages ont accompli un pas de côté par rapport à leur tradition, et Israël renonce à s'approprier ce Messie en laissant les mages rentrer chez eux, porteurs de la bonne nouvelle pour toutes les nations. Les mages vont rentrer chez eux, ils vont retrouver leur vie, leur temple, leurs affaires, mais ils savent maintenant que les peuples peuvent se croiser, s'enrichir mutuellement, s'aimer, s'accueillir, échanger leurs enracinements, métisser leurs identités, parce qu'un petit enfant fragile, vulnérable est né, et que cette naissance, comme toute naissance d'ailleurs, est promesse d'avenir pour ceux qui savent l'accueillir. Alors pour conclure, un mot sur Joseph et Marie. Un texte est toujours l'occasion, lorsqu'il met en scène des personnages, pour les lecteurs que nous sommes, de s'identifier avec tel ou tel protagoniste. Aussi, nous pouvons nous identifier aux mages, ces pèlerins heureux d'une vérité en mouvement. Par contre, nous avons du mal à nous identifier à Hérode, à ses proches, et pourtant, cela peut éventuellement nous prévenir de certaines tentations. Mais nous pouvons aussi nous identifier à Joseph et à Marie, dont la présence discrète indique en fait une seule chose. Ils font en sorte, Joseph et Marie, ils font en sorte que la vérité, c'est-à-dire la vie de ce petit enfant, soit bien entendu protégée, mais surtout mise à disposition, rendue accessible à tous, même à ceux qui sont venus, qui viennent et qui viendront de loin. Pas de mainmise jalouse sur un trésor que l'on conserve comme une relique ou une nouvelle idole. Pas d'appropriation stérile d'une vérité qu'on veut garder pour soi, codifier, imposer à tous, mais simplement l'accueil, l'ouverture à tous ceux qui, même venant de loin, que ce lointain soit géographique, culturel, religieux ou social, aspirent à la rencontre avec le Fils de l'homme, l'enfant de Noël, en qui s'accomplit la véritable humanité. J'y vois là une exhortation à ne pas confondre nos héritages avec la bonne nouvelle. J'y vois pour l'Église l'exigence impérieuse d'être témoin d'une présence et non pas poste frontière, barrière douanière, gendarme d'une orthodoxie figée et paralysante, fut-elle marquée par la modernité. Au plus près des plus loin, c'est, semble-t-il, ce que ce texte nous rappelle. Le Christ est venu pour transformer la vie. Il s'est exposé pour que toute femme, tout homme, toute nation, tout peuple puisse le rencontrer, et en le rencontrant, il trouve la libération de toutes les servitudes, la vérité de leur vie et de leurs histoires. Alors, ne gardons pas la main fermée sur le Christ. le cœur libre, la pensée sans peur. Soyons simplement, mais véritablement, des témoins de cette présence vivante. Alors, la gloire du Christ libérera tous les peuples et la lumière de son épiphanie illuminera la création tout entière. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 87, les strophes 1, 2, 3 et 4. 87, 1, 2, 3, 4.
Thank you.
Vous pouvez vous asseoir et c'est maintenant le moment des annonces.
Bonjour à tous, merci de votre présence. Merci au pasteur Jean-Pierre Rive d'avoir présidé ce culte et d'avoir porté une prédication pleine d'espérance. Et avant les annonces, je vous souhaite et j'espère avec vous, au nom de tout le conseil presbytéral, que Dieu bénira particulièrement cette assemblée et cette communauté et apaisera les esprits et les cœurs. Quelques annonces pour cette semaine, la semaine qui arrive. À l'issue de ce culte, peut-être vous êtes-vous inscrit pour le repas paroissial qui se tiendra salle Mono. Il y a toute une équipe qui est en train de le préparer. Même si vous n'êtes pas inscrit, je pense que les organisateurs ont prévu quelques places supplémentaires, donc à partir de midi, salle Mono. Merci donc de ceux qui pourront venir pour participer à ce repas. Lundi 8 janvier, le groupe protestant des artistes se réunira comme d'habitude de 12h à 13h30, salle Verne. Il y aura un petit culte qui précédera cette réunion avec la pasteure Odile Roman-Lombard. À 19h30, de 19h30 à 21h, Christophe Siemenski donnera salle Roberti un cours d'hébreu biblique pour les progressants. Mardi 9 janvier, à partir de 20h, salle Mono. Vous le savez, il y a tout un cycle de conférences. La religion d'un philosophe ou la philosophie d'un théologien. Série de conférences organisées par Olivier Abel, Philippe Godin, Marc Pernaud et Denis Guénoun. Et Philippe Godin interviendra et nous parlera de Sigmund Freud. Donc, mardi à 20h. Mercredi 10 janvier, c'est le grec biblique pour les avancés, à partir de 15h30 jusqu'à 17h30 avec Aurore Mériot qui assure ce cours. Jeudi 11, c'est l'hébreu biblique pour les débutants, Christophe Siemenski, de 19h30 à 21h. Vendredi 12, le chœur de l'oratoire répétera de 19h30 à 22h, salle Mono. Le chœur s'est un peu étoffé sous la direction de Fabien Aubé, mais il y a toujours des voix, notamment des voix d'hommes, qui manquent. Donc vous pouvez toujours rencontrer Fabien pour un éventuel recrutement au sein du chœur. Et puis samedi 13 janvier, prière silencieuse de 18h à 19h. C'est au quatrième étage de la maison presbytérale. C'est le pasteur Richard Cadou qui officiera pendant cette prière silencieuse. Dimanche prochain, le culte sera assuré par Richard. Merci à Sarah Kim de nous accompagner aujourd'hui à l'orgue. Et puis merci aussi à Camille et à Arnaud d'enregistrer le culte. Il y aura dimanche prochain l'éducation biblique. Et je voulais préciser juste un point. Nous avons donc écrit à tous les parents concernant l'éducation biblique. Quelle que soit la situation, tous les enfants seront accueillis dimanche prochain. S'il y avait des enfants, que ce soit éveil biblique, catéchisme ou école biblique, il y aura des solutions d'accueil pour les enfants. Mais normalement, les parents ont été informés et des activités sont prévues pour des enfants pour qui normalement il y aura peut-être quelques petits soucis provisoires concernant l'éducation biblique. À l'issue du culte, il y aura un temps d'accueil. Et à la sortie du culte, dimanche prochain, il y aura de la part des éclaireuses une vente de gâteaux. Voilà pour les annonces de cette semaine. Merci à tous d'être présents et je vous souhaite un excellent dimanche.
C'est maintenant le moment de l'offrande. Seigneur Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Accepte cette offrande que nous te présentons pour le service de ton Église et de nos frères. Amen.
Juste une petite précision, parce que je n'ai peut-être pas été clair concernant le culte de dimanche prochain. Je vous annonce que le président du conseil régional, Bertrand de Cazeneuve, sera présent à ce culte. Et je voulais aussi être bien clair pour vous préciser que pour le catéchisme et l'éveil biblique, l'accueil sera parfaitement assuré et normalement assuré. Voilà, donc juste ces deux précisions pour dimanche prochain.
Nous nous unissons maintenant dans la prière d'intercession. Seigneur, nous ne savons pas te prier comme il faut. Viens toi-même dans nos cœurs intercéder par ton esprit. Pour nos familles et nos amis, pour tous ceux qui souffrent, les malades et les mourants, les infirmes et les vieillards, les pauvres et les isolés, les torturés, les exilés, les immigrés, nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent, pour ceux qui sont abattus par l'épreuve ou dont la foi chancelle, pour ceux qui passent par la tentation, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité ou dans la joie, nous te prions, Seigneur. Pour notre cité et notre peuple, pour ceux qui nous gouvernent, pour nos villes et nos campagnes, pour tous les peuples de la terre, pour que des artisans de paix se lèvent partout pour lutter contre toute violence, nous te prions, Seigneur. Pour notre paroisse, pour tous ceux qui y exercent un ministère parmi nous, pour l'Église universelle, pour sa fidélité et pour sa vigilance dans l'attente de ton royaume, pour l'unité de ton corps sur la terre, nous te prions, Seigneur. Et nous nous levons pour dire tous ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Tu as ouvert les yeux de l'aveugle, Seigneur, arrache-moi à toutes mes ténèbres. Tu as délivré de son mal le paralytique, Seigneur, rends-moi libre pour te servir. Tu as changé en joie la tristesse des pauvres, Seigneur, apprends-moi à partager. Tu as livré ta vie pour l'amour de la vérité, Seigneur, avive en moi la soif de ton royaume. Allez, annoncez l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et garde vos pas tout au long des jours qui viennent. Amen.